Alors, avez-vous pris des bonnes résolutions en ce début d'année? Une meilleure alimentation, plus de sport, plus de temps avec les personnes que vous aimez, moins de temps devant un écran, plus de temps à lire votre Bible, et les résolutions de l'an dernier, les avez-vous tenues? Moi, j'ai pour ma part un téléphone qui me surveille. Du coup, en fin d'année, j'ai eu droit à tous les bilans. Le nombre de jours où je suis allé courir, le nombre de fois où j'ai lu ma Bible, le nombre de semaines où j'ai lu ma Bible chaque jour. Et mon bilan 2019, je vous l'avoue, n'est pas glorieux. Alors le texte d'aujourd'hui nous parle de résolutions. Il va nous inviter à prendre des résolutions. Nous sommes aujourd'hui, alors aujourd'hui ça va être une spéciale sermon sur la montagne. C'est du coup, moi, je continue le parcours que j'ai commencé donc en novembre, et puis du coup, donc cet après-midi, on aura un temps d'échange et de discussion dessus. Et donc, dans cet enseignement que Matthieu nous rapporte, Jésus s'adresse avant tout à ses disciples qui sont venus auprès de lui, et ses disciples qui lui ont fait confiance, qui ont décidé de le suivre. Dans ce qu'on avait survolé il y a quelques semaines, Jésus décrivait son projet de bonheur pour les hommes. Il invitait chaque disciple à une remise en question personnelle. Il invitait à un examen de soi. Dans son projet de bonheur, connu sous le nom des Béatitudes, il y décrit les citoyens de son royaume, citoyens auxquels nous avons parfois du mal à nous identifier. Pauvres en esprit, doux, qui ont faim et soif de justice, qui procurent la paix, etc. Mais pour un monde meilleur, Dieu veut commencer par nous transformer, nous, à son image. Et cette première partie de son enseignement se clôturait par une invitation à être témoin vivant de Dieu, ici sur terre, à être sel et lumière dans le monde, afin que notre vie reflète la gloire de Dieu. Alors je vous propose aujourd'hui de poursuivre dans cet enseignement de Jésus, donc dans le livre de Matthieu au chapitre 5. On lira donc du verset 17 à la fin du chapitre. Et au programme aujourd'hui, nous allons parler de meurtre, d'adultère, de divorce, de vengeance, de haine. Rien qui semble nous concerner directement aujourd'hui. Et pourtant, en fait, nous allons parler de colère, de convoitise, de mensonge, de nos ennemis. Et là, en fait, nous sommes tous concernés, il me semble. Alors je vous propose de lire les versets 17 à 20, si José tu veux bien les afficher. C'est donc Jésus qui parle à ses disciples. Matthieu 5, verset 17. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas, ne serait-ce qu'à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Bien qu'au début de son ministère sur terre, la parole de Jésus semble déjà controversée. Certains l'accusent de ne pas respecter l'enseignement juif. La loi et les prophètes dont il est question là, c'est ce que nous appelons nous l'Ancien Testament. Jésus est accusé par certains d'aller à l'encontre de cette loi prescrite par Dieu à son peuple, le peuple d'Israël. Peut-être, souvenez-vous de ces passages dans lesquels on reproche à Jésus de guérir un malade un jour de sabbat, le jour de repos. Ou encore lorsque ses disciples sont accusés de ne pas suivre les rites de purification requis. Mais Jésus réfute tout cela, il explique qu'il n'est pas venu pour mettre un terme à la loi, bien au contraire, il vient pour la parachever. Il vient en ressortir le véritable sens. Jésus n'est pas là contre la loi, contre une discipline de vie. Il ne promeut pas une vie libérée de toute considération éthique ou morale. Il promeut une nouvelle loi. Il promeut un retour à la vraie loi. Il veut remplacer la discipline ennuyeuse des pharisiens, dénuée de sens et portant sur des détails insignifiants. Il propose d'aller plus loin dans l'esprit et dans les intentions de la loi. L'objectif n'est plus l'acte extérieur, mais la motivation intérieure. Jésus invite ses disciples, Jésus nous invite, dans la suite de ce passage, à agir selon la loi, dans un sens beaucoup plus radical. Il va aborder 5 thématiques dans lesquelles il va détailler le cœur qui sous-tend la loi et il va nous inviter à nous positionner, à prendre des résolutions pour cette année qui commence. Il va nous parler de colère, de convoitise, de mensonge, de vengeance, de nos ennemis. À chaque fois, il va prendre la formule « Vous avez appris que… » etc. « Eh bien moi, je vous dis… » Il ne cherche pas à remettre en cause la première partie, l'enseignement de la loi. Il cherche à aller au fond des choses, à nous montrer à quel point nos cœurs tortueux croient se dédouaner en disant « Moi, un meurtre, jamais. » Alors que dans le fond, nous ne valons pas mieux que des meurtriers. Face à une interprétation littérale de la loi, Jésus nous propose une vision plus profonde, plus poussée. Contre le légalisme, Jésus nous invite à un engagement radical à faire la volonté de Dieu. Ce préambule se termine par le verset 20 qui nous dit « Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et puis le dernier chapitre du verset, le verset 48, « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. » Ces deux versets nous donnent le ton pour comprendre les 5 thématiques abordées. Les scribes et les pharisiens recherchaient dans l'accomplissement de la loi un mérite suffisant pour obtenir la justice de Dieu. Du coup, priorité est donnée à ce qui se voit, à ce qui arrange. Certaines fautes deviennent plus graves que d'autres. On finit par vouloir en faire toujours plus. Jésus nous invite simplement à regarder nos cœurs, nos motivations, et à nous engager pour faire la volonté de Dieu. Alors le premier sujet qu'il aborde est celui de la colère. Alors reprenons notre lecture au verset 21. On va lire des versets 21 à 26. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Si tu es en conflit avec quelqu'un, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jésus commence donc en reprenant un des 10 commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Les scribes, les pharisiens, pensaient être justes devant Dieu, car ils n'avaient pas commis de meurtre. Et c'est probablement ce que pensent autour de nous un certain nombre de nos collègues ou amis. Je n'ai pas tué. Il y a une place pour moi au paradis. Mais le mal du cœur humain ne se limite pas au meurtre. Jésus le dit sans détour, celui qui se met en colère ou insulte l'autre est digne de l'enfer. Autant le meurtre, peu de nous sommes concernés, autant la colère ou l'insulte. Et là, il ne s'agit pas d'insultes rares, extrêmement violentes. On parle juste de dire à quelqu'un « bon à rien ». Jésus ne prône pas un nouveau légalisme dans lequel aucune insulte ne devrait être prononcée. Il nous invite à soumettre nos pensées, nos paroles à Dieu. Et Jésus poursuit la situation. Tu viens d'être en colère contre quelqu'un, peut-être de l'insulter, et tranquillement, comme si de rien n'était, tu vas adorer Dieu. Jésus affirme qu'il est plus important de rechercher la réconciliation que d'adorer Dieu. La vie avec Dieu ne peut ignorer la vie avec les autres. Le disciple de Jésus se soucie de la paix qu'il apporte autour de lui. S'il blesse quelqu'un, il cherche à se réconcilier en lui demandant pardon. Et cela, nous dit Jésus, est plus important que d'aller adorer Dieu. De plus, en cherchant à réparer ses torts au plus tôt, le disciple offenseur évitera également le processus douloureux d'un procès. Il souligne également l'urgence de mettre en œuvre cette réconciliation. L'offensé risque d'être en chemin pour réclamer justice. Mais nous, nous sommes aussi en chemin pour rencontrer Dieu, notre Créateur, qui nous demandera également des comptes sur notre vie. Ce passage nous rappelle également notre besoin d'un apport surnaturel, divin, dans notre marche à la suite de Dieu. Nous ne pouvons y arriver pleinement par nos propres efforts. Nous ne valons pas mieux qu'un criminel, de par nos paroles, nos intentions. Mais rappelons-nous de cette conversation entre Jésus et le brigand à côté de lui à la croix. Ce malfrat, conscient de ses fautes, venait de lui dire, on peut lire ça dans Luc 23, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus de lui répondre, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est cela la grâce de Dieu pour lui, pour nous, en action. Alors je vous propose de poursuivre dans notre texte à partir du verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce avec sa femme, il doit lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Dans ce passage, Jésus rebondit sur le commandement suivant dans la liste des 10 commandements. Après, tu ne commettras pas de meurtre, c'est tu ne commettras pas d'adultère. Et il établit le lien avec le dernier des 10 commandements, celui qui interdit la convoitise, que ce soit de l'âne, du serviteur, du champ ou de la femme de son prochain. Pour Jésus, le problème de cœur qui sous-tend et entraîne l'adultère et la convoitise. De la même manière que Jésus souhaite que ses disciples soient libérés de la colère et du meurtre, il souhaite également qu'ils soient libérés de la convoitise et de l'adultère. Et face à ce problème, il propose une méthode radicale. Arracher notre œil ou couper notre main. Alors tout n'est pas bien sûr à prendre au pied de la lettre, sinon nous vivrions dans une société de manchots et d'aveugles. Jésus exagère pour retenir notre attention. Mais le fond de sa pensée est clairement là. Refuser de succomber à la tentation nécessite des sacrifices. Il faut parfois savoir couper, même si cela fait mal. Cela peut être dans nos relations, dans nos activités, par exemple. Dans un second temps, Jésus évoque la question du divorce. Il nous rappelle ici la volonté de Dieu pour les couples mariés, l'engagement et la fidélité. Il proteste contre l'attitude d'hommes égoïstes qui usaient d'un légalisme superficiel pour se débarrasser de leur femme grâce à un simple papier. En s'inscrivant ici contre le divorce, Jésus n'établit pas là une nouvelle loi destinée à résoudre tous les problèmes conjugaux. Il ne cherche pas non plus à définir ce que devrait être la loi civile dans une société composée de chrétiens et de non-chrétiens. Il exprime simplement la défense passionnée de la fidélité dans le mariage. Jésus n'est pas non plus en train de juger ce que ses disciples ont fait antérieurement, mais il les appelle maintenant à l'engagement vers une vie meilleure. Ce qui lui importe, ce sont les choix présents et à venir. Poursuivons notre lecture à partir du verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu » ou « J'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds » ou « Je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. » Ne dites pas davantage « Je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. » Dites simplement « Oui, si c'est oui, non, si c'est non. » Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Il y a quelques années, un ami de ma famille est amené à apporter un témoignage devant un tribunal. On lui demande de jurer de dire la vérité et il refuse de le faire du fait de ses convictions religieuses, en particulier de sa compréhension de ce passage-là. À l'époque, cela m'avait fait sourire. Mais en regardant le texte aujourd'hui, je pense qu'en fait, c'est contraire à ce que nous demande Jésus. Le problème que Jésus soulève est celui d'avoir une parole fiable. Jésus nous invite à dire la vérité en toutes circonstances. Que la société nous impose, nous demande de prêter serment ou non. Jésus ici, à nouveau, ne prône pas un nouveau légalisme. Il souhaite simplement que nous soyons clairs, simples, directs, vrais dans nos propos. Il est très facile de faire des compromis avec la vérité. Au travail, dans notre déclaration d'impôt, il peut nous sembler arrangeant de nous accommoder de quelques mensonges. De même, dans nos relations, au sein de l'Église, nous pouvons être amenés à taire la vérité. Si quelqu'un nous blesse, nous ne lui en parlons pas. Si nous sommes coupables, nous ne le confessons pas. Mais Jésus nous demande l'honnêteté, la vérité. Bien sûr, il faut apprendre à le faire avec tact et dans l'amour. Vivre tout cela nous demande un véritable acte de notre volonté. Nous devons être résolument décidés de dire la vérité. Poursuivons au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Le but initial de cette loi est d'empêcher la vendetta. Lorsque tu voles un œuf, je te vole tes bêtes, te brûle ta maison et enlève tes enfants. Le principe que Jésus va défendre ici, c'est celui de ne pas se venger de celui qui nous a fait du mal. Jésus détaille avec 4 exemples. En cas d'insulte, une gifle par exemple, ne pas répondre par la violence. Si nous sommes amenés en justice au sujet de nos biens, nous ne devons pas en vouloir à celui qui nous poursuit. Si nous sommes mis au travail forcé par une autorité politique ou militaire, Nous sommes appelés à garder une attitude de bonne volonté. Nous sommes appelés à vivre de manière désintéressée vis-à-vis de la propriété. On reviendra dessus dans une prochaine prédication dans quelques semaines. Nous sommes invités également à faire preuve de compassion. Mais à nouveau, à ce niveau-là, ce ne sont pas de nouvelles lois à appliquer sans réflexion. Tout le monde est bien conscient que si on appliquait au pied de la lettre, donne à celui qui te demande et ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose, la société reviendrait finalement à 2 groupes, l'un composé de saints qui suivraient cette parole, démunis, ne possédant rien, et un autre groupe d'oisifs voleurs prospères. Non, ici Jésus nous demande simplement de dire non à la vengeance. Et enfin, le dernier sujet évoqué par Jésus, des versets 43 et 47, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? La loi à partir de laquelle Jésus développe ne se trouve que partiellement écrite dans l'Ancien Testament. Trouve que la première partie, tu aimeras ton prochain. Le « tu haïras ton ennemi » était ajouté dans l'enseignement, afin de limiter la notion de prochain. Mais là, à nouveau, Jésus va plus loin. Il nous invite à un changement radical de comportement. Jésus lui-même a donné l'exemple d'un tel amour. Il laissa ses ennemis se saisir de lui et le clouer sur une croix. Nous sommes appelés à souffrir plutôt que nous venger, à aimer, à pardonner, plutôt que haïr et détruire. Nous sommes encore une fois appelés à être lumière sur terre, à montrer autour de nous que d'autres relations humaines sont possibles par la grâce de Dieu. Notre passage d'aujourd'hui se conclut par le verset suivant. « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. » Les béatitudes nous invitaient à prendre conscience de notre état, à prendre conscience de notre dépendance à Dieu. Ici, nous sommes invités à nous positionner, dire non à la colère, non à la convoitise, non au mensonge, non à la vengeance, non à la haine. Nous sommes appelés à le faire dans chaque détail, dans chaque pensée de notre vie. Comment choisissons-nous de vivre cette année 2020 ? Dieu souhaite des disciples vivant une vie acquise à sa volonté et par conséquent reflétant dans son caractère. Les bonnes résolutions, c'est une chose de les poser en début d'année. Il est important de se les rappeler tout au long de l'année et de les mettre en œuvre dès que l'occasion se présente. Jonathan Edwards, qui est un théologien du XVIIIe siècle, à l'âge de 19 ans, a pris 70 résolutions, dont celle-ci qui me marque particulièrement, la résolution numéro 7, résolue de ne jamais faire quelque chose que j'aurais peur de faire si c'était la dernière heure de ma vie. Cela peut nous sembler insurmontable, d'autant plus au vu de nos propres échecs des années passées. Prenons pour nous cet encouragement de Paul à Timothée, en 2 Timothée 2, verset 1. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Et dans nos temps de manquement, lorsque nous nous éloignons de l'objectif de Dieu pour nous, Jean nous rappelle dans sa première lettre que nous pouvons toujours revenir à Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Choisissons pour 2020 de vivre cet enseignement de Jésus dans nos relations les uns avec les autres.